Réponse aux objections sur la mission. Amis pèlerins, vous avez sans doute remarqué à la sortie de Paris les regards des personnes qui voyaient passer la colonne. Beaucoup d'entre eux ignorent le message de l'Évangile, beaucoup vivent loin de Dieu. Que pouvons-nous faire pour eux? La réponse est simple. Faire en sorte qu'ils rencontrent le Christ. C'est une question de salut. Comme le rappelle saint Pierre dans un célèbre discours, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, Jésus est l'unique sauveur des hommes, l'unique porte du vrai bonheur. La doctrine de l'Église est très claire et a été rappelée dans un texte important du cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, Dominus Jesus, en l'an 2000. Il faut en effet croire fermement, comme un élément permanent de la foi de l'Église, la vérité sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur et unique Sauveur, qui par son incarnation, sa mort et sa résurrection, a accompli l'histoire du salut, dont il est la plénitude et le centre. En d'autres termes, pour qu'un homme soit sauvé, il faut qu'il soit uni au Christ. Voilà donc le but de la mission, permettre aux hommes de rencontrer Jésus, d'être unis à lui et de marcher, soutenus par la grâce de Dieu, vers le ciel. De façon habituelle, cette union au Christ se fait par le baptême qui nous donne la grâce de la foi, nous fait enfants de Dieu et membres de l'Église visible. Mais immédiatement la question se pose. Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas accès au message de l'Évangile ou qui appartiennent à d'autres confessions religieuses? Peuvent-elles être sauvées? Et si oui, la mission est-elle si nécessaire? Car si comme le chante Paul Naref, on ira tous au paradis, ou bien si toutes les religions sont des chemins vers le ciel, alors annoncer le Christ à ceux qui l'ignorent ou le rejettent ne sert pas à grand-chose. Je vous propose donc, dans cette méditation, de tordre le cou à certaines idées qui ont cours aujourd'hui et qui sont autant d'objections à la nécessité de la mission, et qui sont d'autant d'objections à la nécessité de la mission. Première objection. Les personnes qui ne sont pas catholiques peuvent-elles être sauvées? Réponse. Oui, mais plus difficilement que celles qui appartiennent visiblement à l'Église catholique. Pour le comprendre, écoutons ce que nous dit saint Paul dans la première épître à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela signifie que Dieu offre à tous les hommes, ayant atteint l'âge de raison, au moins à un moment de leur existence, les grâces suffisantes pour être sauvés. Pour autant, l'Église catholique et elle seule possède la plénitude de la vérité qui sauve. Ceux qui ne sont pas catholiques sont donc dans une situation de grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église, ont la plénitude des moyens de salut. C'est seulement dans l'Église, en effet, que l'on trouve toutes les vérités surnaturelles que Dieu nous a révélées, les sacrements qui nous communiquent la grâce et des pasteurs, papes, évêques, prêtres, qui nous guident sur le chemin du ciel. Il est donc beaucoup plus facile de se sauver en étant en pleine communion avec l'Église catholique. Deuxième Deuxième objection. Si on peut être sauvé sans être catholique, comment comprendre le principe « hors de l'Église, point de salut » ? Rappelons tout d'abord que cet adage « hors de l'Église, point de salut » fait partie de la doctrine catholique et est présent en toutes lettres dans le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 846. Pourquoi est-il impossible d'être sauvé en dehors de l'Église ? Parce que Jésus est le seul sauveur et que l'Église, selon le mot de Bossuet, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Ou encore, comme disait Jeanne d'Arc, « M'est avis que Jésus-Christ et l'Église, c'est tout un. Le Christ est la vigne, nous sommes les sarments. Si le sarment se sépare de la vigne, il dessèche et il meurt. » Cette vérité implique deux choses. Ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Les personnes qui sont sauvées sans être catholiques ne peuvent l'être que parce qu'elles appartiennent, d'une certaine façon, au Christ et donc à l'Église. Troisième objection. Mais alors, comment peut-on appartenir au Christ sans être catholique ? Il faut ici faire une distinction entre deux types d'appartenance à l'Église. L'appartenance de corps, visible, et l'appartenance de cœur, invisible. Pour appartenir à l'Église visible, trois conditions sont requises. Professer intégralement la foi catholique, pouvoir recevoir les sacrements, reconnaître la hiérarchie ecclésiastique et obéir aux ordres légitimes de ses pasteurs. Ces trois conditions recoupent les trois pouvoirs de l'Église, qui sont aussi ses trois missions principales qu'elle a reçues du Christ lui-même. Le pouvoir d'enseigner, auquel s'opposent les hérétiques, le pouvoir de sanctifier, auquel s'opposent les excommuniés, le pouvoir de gouverner, auquel s'opposent les schismatiques. Sont donc exclus de l'Église visible les schismatiques, comme les orthodoxes, séparés par le refus de reconnaissance de l'autorité du pape, et les hérétiques, comme les protestants, séparés par le refus d'une ou plusieurs vérités dogmatiques. Mais attention, le fait d'appartenir visiblement à l'Église n'assure pas le salut pour autant. Une personne catholique qui ne persévère pas dans la charité, en commettant un péché mortel, reste bien de corps dans l'Église, mais non de cœur. Il y a aussi une appartenance que l'on appelle invisible. Elle vaut pour les personnes qui, sans faute de leur part, ne connaissent pas le Christ et son Église, mais qui, par la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit, ont le désir, au moins implicite, plus ou moins conscient, de lui appartenir. Ce désir est le fruit de la charité que Dieu, dans sa miséricorde et par des moyens connus de lui seul, a placé dans le cœur de ces personnes, Elles peuvent donc être sauvées, mais uniquement parce que le Christ agit déjà en elles. On retrouve donc cette vérité centrale, le Christ est bien le seul sauveur, même pour les personnes qui n'appartiennent pas, visiblement, à l'Église catholique. Quatrième objection. À quelles conditions les personnes qui n'appartiennent pas visiblement à l'Église peuvent être sauvées ? On entend parfois qu'il suffit pour ces personnes de suivre leur conscience et de vivre en suivant les exigences de la loi naturelle pour être sauvé. Ce n'est pas vrai. Suivre les exigences de la loi naturelle, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas faire de tort au prochain, etc., est une condition nécessaire, mais pas suffisante du salut. Pourquoi ? Tout simplement parce que le salut est surnaturel, alors que la loi naturelle est seulement naturelle. En d'autres termes, pour être sauvé, il faut avoir reçu la grâce sanctifiante. Voilà ce qu'enseigne l'Église, et notamment Pie IX. Ceux qui ignorent invinciblement notre religion sainte, mais qui observent avec soin la loi naturelle et ses préceptes, gravés par Dieu dans le cœur de tous, qui sont disposés à obéir au Seigneur et qui mènent une vie honorable et juste, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle. Résumons. Une personne qui refuse consciemment d'appartenir à l'Église ou qui s'en sépare, alors qu'elle sait qu'elle est nécessaire au salut, ne pourrait pas être sauvée. Mais une personne qui, par une ignorance invincible, c'est-à-dire une ignorance qui n'est pas de sa faute, qui n'est pas coupable, ne connaît pas l'Église et le Christ, peut être sauvée, à condition qu'elle ait le désir, au moins implicite, d'être unie au Christ. Ce désir implicite implique une bonne disposition de l'âme, qui inclut de vouloir soumettre sa volonté à celle de Dieu. Il est difficile de préciser avec exactitude le contenu de ce désir. Les théologiens s'appuient sur cette phrase de l'Épître aux Hébreux : « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En tout état de cause, il faut être convaincu que si une personne cherche la vérité d'un cœur sincère, elle obtiendra des réponses. Mais la plupart du temps, ces réponses ne lui seront données que par l'annonce explicite de la foi chrétienne. D'où l'importance décisive de la mission. Si les catholiques se taisent et mettent la lumière sous le boisseau, il est bien possible que ces personnes en recherche s'arrêtent en chemin. Car il faut le répéter, il est beaucoup plus facile de se sauver quand on appartient totalement à l'Église catholique. Cinquième objection. Et qu'en est-il des personnes qui appartiennent à d'autres religions ? L'une des plus graves erreurs de notre temps, très répandue malheureusement, est de croire que toutes les religions se valent et qu'elles sont d'authentiques chemins de salut. Certains vont même jusqu'à affirmer que les différentes religions seraient complémentaires, chacune possédant une part de vérité qu'il faut mettre en commun dans le dialogue interreligieux. C'est ce qu'on appelle le faux œcuménisme, qui est l'une des conséquences les plus graves du modernisme et donc une des causes de la réaction traditionnelle, car c'est une injure faite au seul vrai Dieu. Pie XI déjà réfutait cette erreur dans l'encyclique Mortalium Animos. Or, les partisans de cette théorie sont dans la plus grande erreur. Ils semblent poursuivre le très noble dessein de promouvoir la charité entre tous les chrétiens. Mais comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi ? C'est pourquoi, comme la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, l'unité de foi est le lien principal qui doit unir les disciples du Christ. Il n'est pas permis, en effet, de procurer l'union des chrétiens autrement qu'en favorisant le retour des dissidents à la seule et véritable Église du Christ dont ils se sont jadis malheureusement éloignés. Le but de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux n'est donc pas pour les catholiques de venir s'enrichir des éléments présents dans d'autres religions, mais dans un climat de charité et de liberté, d'annoncer la vérité de la foi catholique à ceux qui ne la reconnaissent pas ou pas complètement. L'Église catholique, pour reprendre une image chère au Père de l'Église, est comme l'Arche de Noé. Seuls ceux qui sont montés dedans échappent à la mort. Est-ce à dire que tout est faux dans les autres religions et qu'aucun de ceux qui y vivent ne peuvent être sauvés? Non, bien sûr. L'Église reconnaît que certains éléments présents dans les religions non catholiques sont bons, mais mêlés à des nombreuses erreurs qui défigurent la vérité divine. Dieu peut se servir de ces éléments bons pour constituer une préparation évangélique qui dispose les cœurs à recevoir la vérité. Mais si ces personnes sont sauvées, c'est plutôt malgré leur appartenance à cette religion que grâce à elle. Et bien sûr, certaines religions sont plus proches du christianisme que d'autres. Il est objectivement plus facile à un orthodoxe qui reconnaît le Christ et peut bénéficier de sacrements valides d'être sauvé qu'à un musulman ou un bouddhiste. Sixième objection. Le zèle missionnaire s'oppose-t-il à la liberté de conscience? C'est une objection que l'on entend parfois. En étalant ainsi votre religion, vous faites du prosélytisme, vous forcez les gens. La réponse, c'est l'apologète Saint Justin qui la donne déjà au IIe siècle. Rien n'est plus contraire à la religion que la contrainte. La mission est tout sauf de la manipulation, ou un ensemble de techniques pour convaincre les faibles. Car la foi doit être un choix libre. C'est le cœur du christianisme. Mais comment faire ce choix libre de croire si personne ne nous parle du Christ? C'est l'interrogation de saint Paul. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour cela que le Christ est venu parler au monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Être missionnaire n'est donc pas un acte de contrainte, c'est au contraire un acte d'amour, celui de partager un trésor, celui de la vérité, libre à la personne de l'accepter ou de le refuser. Comme disait sainte Bernadette, « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Septième objection. Pour finir, est-ce que le chrétien possède la vérité? Le Christ l'a dit, « Je suis la vérité ». Le catholique qui est uni au Christ est uni à la vérité. Il ne la possède pas comme on possède un bien matériel, bien sûr, mais comme une lumière qu'il est appelé à communiquer à d'autres. Comment ? Par l'annonce explicite de la foi, soutenue par le témoignage d'une vie en toute conforme à la radicalité de l'Évangile. Nous portons ce trésor de la vérité dans un vase d'argile. Mais cela reste un trésor dont tous les hommes doivent profiter, pressés par l'amour du Christ. Allons chercher ceux qui cherchent, mais cela reste un trésor dont tous les hommes doivent profiter. Pressés par l'amour du Christ, allons chercher ceux qui cherchent pour leur annoncer la vérité qui sauve, Jésus-Christ.